Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Talk CEC. Talk CEC, c'est un centre d'événementiel et une maison culturelle européenne située au cœur de Bruxelles. Dans nos podcasts, nous recevons des artistes, créatifs et partenaires pour discuter sur des thèmes environnementaux, culturels ou des expériences de vie. Voici deux épisodes un peu particuliers dans lesquels nous avons accueilli Louis de la tribu Uniqueen d'Amazonie. Il nous parle de son tour en Europe, de sa culture et de la situation environnementale en Amazonie. Pour des raisons de facilité, nous avons décidé de diviser cet épisode en deux parties, et voici la première. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Talk CEC. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Tchananui Uniqueen, homme de médecine et chanteur des traditions de la tribu amazonienne Uniqueen. Il est actuellement tourné en Europe et on a la chance de l'avoir rencontré pour son passage à Bruxelles lors de l'exposition amazonienne immersive à Talk CEC. Alors j'ai avec moi Nui, totalement, qui est accompagné de Mathilde, qui justement se dédie à la valorisation des cultures et sagesse d'Amazonie. Et elle a cofondé la Floresta TV qui nous filme aujourd'hui. Elle a bien sûr fait beaucoup d'autres choses, mais c'est grâce à ses talents d'interprète que l'on peut avoir cette discussion aujourd'hui. Et il y a aussi Clarissa et Mathieu de Talk CEC qui ont accueilli l'exposition en question. Alors, bonjour à tous. Comment
bonjour.
Ça va?
Bonjour.
On est bien installés? Tout le monde est bien? Un peu froid? on va peut-être commencer par dire quelques mots sur l'exposition. Clarissa, Mathieu, voilà, comment vous en êtes venus à rencontrer Nui et comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est passé en quelques mois, très rapidement, puisque plusieurs envies convergeaient, notamment avec Talk CEC, vu que leurs valeurs étaient totalement alignées avec ce que nous défendions, savoir culture, humanisme et environnement. Les bonnes volontés se sont rencontrées et tout s'est produit dans un délai assez court. C'était pour nous important de savoir organiser le dialogue et là, il s'agissait vraiment d'une épreuve du feu.
Ce qui était intéressant avec cette exposition, justement, c'est que c'est pas seulement une exposition, c'est une immersion totale, donc d'où Amazonie immersive, d'un point de vue culturel, artistique, aussi en cohabitant avec notamment Mathilde, Nui et l'équipe, on a pu discuter et aller plus loin, comprendre leurs actions, leur initiative, et comme l'a dit Mathieu, ça rentrait totalement dans nos valeurs. On est très heureux d'avoir accueilli cet événement et d'aller aujourd'hui avec ce podcast plus en profondeur. Mais je laisserai la parole à Mathilde pour qu'elle explique.
Juste pour revenir comme ça sur l'événement, il y a eu combien de gens? Comment ça s'est passé?
Alors l'événement s'est tenu sur 3 jours. Donc vendredi 1er avril, samedi et dimanche, le premier jour, donc le vernissage, la découverte et du lieu et des salles immersives. On a eu aussi du chant, de la danse, une immersion totale en fait, pouvoir faire découvrir au public et nous aussi, puisqu'on découvrait également totalement cette culture, puisque c'est une culture dont on entend parler de loin, on va dire, puisque c'est loin de nous, de l'Europe, de notre culture. Les 2 jours suivants, des workshops sur les chants, la méditation, la peinture, l'art, puisqu'on a eu quand même 2 artistes qui sont venus spécialement du Brésil, un atelier d'huile essentielle, de cosmétique, enfin tout ce qui est autour de la culture amazonienne avec des produits importés d'Amazonie. C'était un événement assez complet.
On va du coup se tourner vers Nui. D'abord, bienvenue à Bruxelles. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, j'ai plein de questions en tête que j'aimerais bien te poser, mais on va essayer d'être... on n'aura jamais le temps de tout couvrir, donc je vais essayer de rester, d'aller à l'essentiel. Tu as commencé un tour à travers l'Europe pour montrer ton art, ta culture. Et quel est l'objectif finalement de ce tour?
Ouch. Ah, Yushibo, Joaquin,
no Kuraya Murabaukin, Kurushupaukin. Então, eu sou Nui Runikuin, sou do estado do Acre.
Donc, Nui a commencé à se présenter donc, avec une rapide prière en Hachakuin, donc, qui est la langue originale du peuple Runikuin. Donc là, je n'ai même pas moi la capacité de vous traduire, mais ensuite, donc, il a parlé en portugais, qui est une langue de plus en plus présente dans les cultures indigènes d'Amazonie brésilienne. Donc, pour traduire, donc, bonjour à tous, je m'appelle Tiana Nui Runikuin, je viens de l'état du Acre, qui se trouve au cœur de l'Amazonie brésilienne. Je suis leader du groupe Chanauri, de la communauté Igarapé du Caucho, donc du peuple ethnie Runikuin. Je viens ici apporter les messages de l'Amazonie au reste du monde, entre autres, donc toute l'importance de mon voyage à l'heure actuelle, c'est vraiment d'ouvrir la voie aux possibilités de travailler entre mon peuple, le peuple Runikuin, et les peuples de la forêt amazonienne et le reste du monde, et notamment l'Europe, avec des possibilités de réflexion, d'échange, de partenariat, de travaux collectifs, pour ensemble commencer à agir en faveur de la plus grande forêt du monde, qui est l'Amazonie, qui est la forêt pure que nous-mêmes, peuple premier, donc nous protégeons, dont nous protégeons les eaux, l'air, les plantes sacrées, les médecines, les connaissances, les cultures, mais qui aujourd'hui ont besoin d'aide pour se maintenir, pour rester vivante, pour rester active. Et donc c'est pour ça que je viens ici, donc au nom de mon peuple, voilà, commencer à ouvrir ces possibilités, partager donc nos idées, nos nécessités aussi, les nécessités de notre communauté, pour ensemble travailler, œuvrer à la construction d'un monde meilleur, d'un monde de paix aussi, qui est la vibration de base de notre tradition, de notre bonne de vie, de ce qu'on veut construire avec le monde, et ce qu'on vient prier aussi pour toute l'humanité.
Ok. Il y avait beaucoup de choses, tout ce qu'il a dit. Dans son parcours en Europe, dans ton parcours en Europe, quel est ton espoir, en fait? Quel est l'espoir de toucher des gens, de former des alliances commerciales? Tu vas te dire, OK, j'ai réussi mon voyage parce que j'ai obtenu ceci ou cela.
Então, né, a minha expectativa é de poder...
Au niveau donc de ma présence ici, ce que j'espère pouvoir apporter et ramener au cœur de mon peuple, ce serait d'abord donc ce message constructif de compréhension et d'union entre les peuples, entre des cultures différentes, entre des continents différents, finalement, que nous représentons, et vraiment pouvoir commencer à constituer des partenariats de vision à long terme sur ce qu'on a échangé entre ces cultures différentes, ces connaissances, ces sagesses diverses. Et entre autres, par exemple, donc moi, je suis venue ici avec le plan annuel de ma terre indigène pour présenter au monde, expliquer comment fonctionnent nos modèles de société, nos nécessités aussi en nouveaux types de connaissances, aussi de technologiques, parce qu'on a besoin de s'adapter aussi à tous les changements que nous on vit, y compris donc les changements climatiques, par exemple, dont son état est dans les plus touchés d'Amazonie. Donc, ils veulent ce besoin d'échange pour penser des systèmes, des modèles à long terme, dont nous-mêmes, on pourrait commencer à s'inspirer sur des modes de vie, donc reconnecter à la source, connecter à la nature, à l'autre, à la communauté. Et aussi, donc, il vient donc partager donc toute la richesse de leur culture, donc qui est une culture de tradition orale, musicale, artistique aussi, qui donc en son sein donc porte des milliers d'années de connaissances originelles, né, et de connaissances de la forêt, et donc il vient pour le partager et l'enrichir aussi, parce qu'il pense que avec cette interculturalité tout le monde sort gagnant, et il vient notamment aussi donc partager cette possibilité donc d'intégration et d'aller connaître sa culture aussi sur place. Il pense que pour commencer à vraiment travailler ensemble, effectivement, il est important de tout comme lui, il fait des longs voyages donc pour s'intégrer dans notre culture, nous inviter à s'intégrer à la sienne, né, pour connaître depuis la racine toute l'amplitude de leurs connaissances, né, être en immersion et penser ensemble ces projets. Et donc, il vient divulguer donc des festivals de connaissances, de culture qui se passent donc à certains moments de l'année en Amazonie et où il veut tous nous inviter à aller s'immerger pour apprendre aussi cet univers.
Ok, ok. Super, super intéressant.
Grand plaisir.
Ouais, bah oui,
on va se prévoir un petit voyage, en
Pourquoi pas ? C'est sympa, on fait ça... Fin d'année. Entre deux expos.
Voilà.
Et alors, je voulais, du coup, aussi te demander comment se passe ton séjour maintenant ici. Quel est ton ressenti? Comment s'est passé l'événement? Comment tu te sens?
Então, né, o evento para mim, Amazônia Immersive, foi...
À mon niveau, donc, ça a été donc très spécial et important, donc, pouvoir participer donc à cet événement, donc Amazonie immersive, qui est assez différent de ce que j'ai déjà pu connaître, y compris en voyageant, puisque donc Noé est en Europe pour la deuxième fois, il a déjà voyagé aussi dans d'autres pays, notamment d'Amérique du Sud, pour représenter son peuple. Et là, ce qu'il a vu de cet événement, donc qui est son premier événement donc en Europe, avant une tournée de plusieurs semaines donc dans notre pays, notamment en France, Suisse, Portugal, il a trouvé ça très intéressant en fait le fait que c'est un événement qui a intégré différents types de cultures, donc notamment donc la sienne, sa culture d'Amazonie. Donc lui, il a représenté à travers de chants, de partage de connaissances, de sagesse, de débats aussi qu'on a fait, de photos, de films, mais aussi donc de produits et d'objets donc de ce peuple. Donc il y avait notamment des aliments, des noix, des produits donc vraiment typiques qui viennent du cœur d'Amazonie, de l'artisanat aussi, donc produits de manière locale, partagés de manière éthique ici, avec toute une réflexion de commerce équitable, et donc qui ont été intégrés donc à des activités aussi. Donc il y avait des activités de cuisine, des activités de produits cosmétiques naturels. Donc oui, ça a été intéressant de voir comment finalement les cultures peuvent s'intégrer, prendre le meilleur de ce qui vient de chez lui et puis l'intégrer au meilleur de ce qu'on peut trouver ici aussi. Donc il a appris beaucoup de choses finalement en allant d'activité en activité. Il a trouvé ça très inspirant. Il a beaucoup aimé l'intégration musicale aussi qui s'est passée de manière très spontanée avec notamment le groupe Bak di Chouv, donc qui est un groupe de Batouk, donc qui a un rythme musical qui vient de descendance plutôt afro-brésilienne, donc qui vient du Brésil, mais et dont il y a une forte représentativité ici à Bruxelles. C'est un rythme rythmé donc du nord du Brésil, donc qui est pas de sa région, mais néanmoins qui naturellement s'est très bien intégré quand ils chantaient. Ils sont venus l'accompagner avec donc des tambours, des instruments assez spécifiques de cette région du Brésil, et il y a eu vraiment comme une inclusion collective nette, très fluide, qui est ce en quoi ils croient aussi. Donc comment quand on intègre chacun le meilleur de soi, finalement on produit quelque chose de toujours différent, unique, mais riche. Et il remercie notamment aussi énormément donc Mathieu et Clarissa donc pour avoir ouvert les portes donc de cet événement collectif finalement, puisque c'était plus de 40 partenaires qui ont donné maximum de ce qu'ils pouvaient, leurs connaissances, leurs produits, leur savoir-faire, leur temps surtout, leur espace, donc comme vous. Et donc et voilà, c'est important comme modèle aussi de construction d'événements différents, novateurs. Puis remercier voilà tout le temps passé ensemble, le fait qu'on a aussi vécu une expérience humaine derrière, parce que c'était pas qu'un événement de 3 jours, nous ça fait un petit bout de temps, plusieurs jours, voire certains plusieurs semaines, qu'on est en résidence artistique donc chez Clarisse et Mathieu pour apprendre à se connaître au-delà d'un événement de 3 jours et apprendre à cumuler nos forces, travailler ensemble. Et donc il reconnaît tout le travail, la dévotion que vous avez donc par rapport à ce magnifique projet que vous émanez ici dans cet espace de talk. Et donc il vous remercie énormément, vous envoie énormément d'énergie, vous bénit aussi pour ce travail.
J'imagine que ça doit être effectivement une grosse expérience pour lui aussi. Mais du coup, plutôt heureux du voyage jusqu'ici.
Si. Estamos caminhando bem, né? Apesar que o clima seja diferente, mas...
Donc oui, effectivement. Bon, même si le climat est très différent,
c'est ça.
Il faut quand même mais juste spécifier que Louis est arrivé et s'est pris donc les neiges d'avril.
C'est vrai.
Donc il a fait très très froid depuis qu'il est arrivé et puis on est dans un espace grand qui est assez difficile à chauffer. Donc pour lui, ça a été un certain défi, mais il fait malgré le froid et les différences culturelles. Ouais, même d'alimentation, tout ça, de rythme, de relation au temps, mais qu'il voit de nous à lui. Il est content, puis il vient avec tout un agenda finalement. Mais après cet événement, c'est que le début, le lancement de toute une tournée. Donc on va faire Guilherme, qui est cinéaste brésilien, qui est à nos côtés, qui filme et qui articule aussi donc ses projets. Et puis moi-même pour cette aide logistique et organisationnel et aussi de partage de projet. On a cet objectif finalement de pouvoir lever cette voie dans différentes perspectives, différentes possibilités de partenariat. Même cet événement finalement, c'est que pour nous c'est qu'une graine finalement qu'on a plantée tous ensemble pour la reproduire. Bah où on pourrait passer et avec cette idée d'intégration culturelle, si c'était par exemple dans un autre pays, avec l'intégration aussi d'acteurs locaux, bah, comme finalement ça s'est passé ici, d'arts locaux où on voit qu'il y a vraiment un mariage vraiment possible à faire puisque ce sont des peuples qui ont beaucoup d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit à intégrer les différences, comme on peut l'écouter, je pense, via la parole de Nui. Donc voilà, il est très satisfait, il se dit en travail pour partager ses messages, ses possibilités, ses espoirs aussi collectifs.
Ok, ouais. J'imagine qu'effectivement, ça doit être parfois déstabilisant d'arriver dans une société où on est à ce point dépendant des technologies, du chauffage, on ne sait plus vivre presque sans toute cette technologie, alors que peut-être que lui est habitué à un autre style de vie où il n'a pas besoin de tout cet aspect superficiel. Ça doit être un peu déstabilisant.
Sim, é um pouco diferente, né? É assim do horário, né?
Effectivement, donc par rapport à nos coutumes, traditions et modes de vie, c'est un assez grand défi, donc voyager de si loin, donc et venir dans des cultures si différentes, c'est pas forcément tout le monde, notre communauté qui, je pense, le ferait. On aurait même le courage, parce qu'il en faut, pour être ici dans un tel moment aussi qu'on passe au niveau mondial. Hein, on fait quand même venir un leader entre une pandémie, une guerre et des menaces nucléaires. Donc aussi, c'est une responsabilité mais, que nous avons donc vis-à-vis de toute une communauté. Quand Nui est ici, donc on essaie d'appuyer au maximum sa communauté, mais qui l'organise normalement. Donc quand il est à distance, on a besoin de les aider. Et donc entre autres, donc financièrement parlant, envoyer des appuis, donc en envoyant des nouvelles aussi, et en ayant donc un retour de qualité de tout ce travail qu'on fait ensemble finalement. Donc ce type d'enregistrement, de vidéo, de film qu'on pourrait faire qui est à service de toute la voix d'un peuple. Mais il explique que c'est une mission de vie aussi finalement, c'est une trajectoire que lui, il sent l'appel. Il est entre autres donc Chana, donc Chana dans la tradition Hunikun, donc c'est un mot de Ratchakwin, la langue originelle de ce peuple. Chana, ce sont les oiseaux voyageurs et surtout oiseaux chanteurs, donc ce sont les leaders qui ont vraiment la force de l'étude du chant, des vibrations sonores et aussi travaille plus entre le spirituel et la matière, et donc qui voyage le monde pour partager les messages de la forêt, donc non seulement par la communication et la parole, donc vraiment donc ils ont certaines facilités donc de communication, mais surtout aussi par des vibrations qu'on a oubliées un peu dans notre société, donc plus subtiles, qui sont vraiment des chants, qui sont le silence, des réflexions sur le temps, sur la présence, une relation à la nature, finalement, qu'ils ont, eux, beaucoup plus naturellement que nous, où tout est connecté, donc où un son représente un esprit, qui représente une plante, qui soigne une question ou une maladie, qui se réintègre avec un système et qui refait un son, finalement. C'est des choses très circulaires dans leur culture, et donc ils viennent aussi partager un peu tout ça, parce qu'ils sentent qu'on en a besoin, on en manque un peu dans notre société. Donc voilà, donc il est conscient que c'est un défi, mais il est très heureux de le faire, d'avoir été missionné, de se sentir donc à sa place en faisant ça, et au nom de son peuple, donc d'avoir la confiance tant de son peuple que la nôtre pour travailler ensemble. Donc quelque chose qu'il ressent beaucoup quand il est ici, c'est vraiment qu'on a une autre relation au temps et à la présence. Et donc, pour lui, c'est un peu difficile de voir, d'avoir donc des questions d'horaire, d'obligation. Non pas qu'ils en ont pas, mais ils ont beaucoup de responsabilités dans ce qu'ils font au quotidien, mais ils le font avec le temps des choses. Donc, même à la base, donc avant l'arrivée de quoi que ce soit de technologie, donc dans les communautés indigènes, hein, qui commencent à arriver depuis quelques années, donc comme partout dans le monde, mais même s'il y a encore des tribus en Amazonie brésilienne qui sont complètement encore sans contact, mais c'est de plus en plus rare. Donc, par exemple, la communauté de Nui a contact avec la ville et les technologies quand même depuis une paire d'années. Donc, même eux, ça a changé leur relation au temps, au rythme, mais ils voient que c'est plus fort chez nous. C'est pas tous les jours facile, parce qu'ils ont l'impression des fois qu'on force les choses finalement. Ils sentent que les choses sont beaucoup moins spontanées et naturelles, parce qu'on est forcé des fois à contre-sens rythmique de notre propre rythme de le faire. Mais en même temps, il dit que c'est important. Pour lui, c'est un apprentissage, et il sait que c'est, il y a que comme ça qu'il pourra partager, donc, enfin, se communiquer avec le reste du monde, mais créer des idées, des partenariats, des projets. Donc, c'est un co-apprentissage. Autant qu'il apprend avec nous, il essaie de nous apprendre un peu, d'être un peu plus posé, de prendre le temps des choses, de savourer les choses, de prendre le chemin plutôt que l'arrivée.
On aimerait bien pouvoir ralentir. C'est comme un tourbillon, en fait. Nous, on est entraînés dans... Enfin, la société s'est construite comme ça, qu'en fait, individuellement, on n'a pas le choix. On est emporté par le torrent des activités humaines autour de nous.
Então, a vida na aldeia, ela...
Nous, ici, nous partageons un petit peu donc une réflexion sur le mode de vie donc au sein des tribus, en relation par exemple à la ville donc qui connaît donc encore d'Amazonie, donc ils sont quand même par exemple sa tribu à peu près une heure en bateau d'une ville, donc taille petite à moyenne, même on va dire par rapport à ce qu'on connaît ici, donc assez traditionnel, mais c'est tout de même une ville où ensuite donc il y a une route d'accès donc à une capitale où il y a un aéroport, donc c'est quand même une communauté assez proche de contact, hein. Il en existe, moi je suis allée dans des tribus donc quand même plus éloignées, il en existe des vraiment intouchables, sont plusieurs jours de bateau pour y avoir accès. Donc c'est vraiment une relation au temps, à la distance, qui est difficile à expliquer. En tout cas, moi c'est ce que j'ai appris au Brésil aussi, hein. Le Brésil, c'est un pays continent. Le Brésil fait quasiment la taille de l'Europe finalement. Donc l'Amazonie, c'est un espace vierge encore. En fait, il faut quand on parle par exemple de la terre indigène, donc de Nui.
Me lembra o tamanho da terra indígena?
12.318 hectares.
Donc sa terre indigène, la terre de son peuple, donc 12.380 hectares. Donc pour une population, sa communauté, donc est un village donc qui regroupe
quantas famílias e quantas pessoas?
194 famílias, 885 pessoas.
Donc son village à Nui regroupe 194 familles qui représentent 885 personnes, divisées en 8 groupes d'une centaine de personnes, donc pour garder donc une taille, une cohésion sociale cohérente. En fait, ils se divisent entre guillemets pour organiser les tâches de travail et les particularités culturelles de chaque famille finalement. Donc, et la terre donc qui les abrite, donc un peu plus de 12 000 hectares. Et c'est difficile pour nous, je pense, d'imaginer ce type de taille de terre, sachant que pour eux, en fait, c'est très petit par rapport à ce dont ils ont eu l'habitude de s'occuper. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte, et c'est d'ailleurs pour une des raisons pour lesquelles nous avons créé la Floresta TV avec Guilherme, puisque le Brésil et les peuples premiers du Brésil vivent un contexte actuellement assez critique, à vrai dire, tant donc au niveau des débats plus traditionnels qu'on connaît, déforestation, pollution, invasion, monoculture.
Qui s'est sans doute accentué avec Bolsonaro.
Voilà, et il y a un contexte politique, alors que moi, je dirige même pas que sur une question Bolsonaro, mais qui est vraiment internationale, et ça c'est important de le dire, en fait, on en parle très peu, mais à vrai dire, c'est un contexte global, énormément d'intérêt sur l'Amazonie pour les richesses qu'elle couvre encore en termes de minerais, d'eau, de matières premières, de bois, qui intéresse notamment donc des grands mouvements de multinationales, de politiques aussi. Donc, d'ailleurs, il y a vraiment tout un enjeu très grand. Il y a le Mercosur aussi qui est à nouveau en débat, donc notamment au Parlement européen qui est juste à côté de nous ici, mais qui est un traité de libre-échange qui a été pensé il y a plus de 25 ans, qui aujourd'hui est remis à l'heure avec les mêmes modèles de pensée, donc sans réflexion, donc long-termiste, environnemental, comme il est l'heure de commencer à penser, où je pense qu'on a toute la connaissance de terrain et les possibilités, les idées, commencer à penser des choses un peu plus durables, comme c'est l'intégration de la connaissance de ces peuples, donc avec les nôtres. Et donc, nous expliquer que ils ont du coup une autre relation à l'espace, et c'est vrai, au temps, ils disent, c'est pas parce qu'on n'est pas forcément plus lent, mais je pense qu'on a juste un autre rythme. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important, une grande source d'apprentissage pour moi quand je suis sur le terrain, parce que même si ça a l'air plus lent, et beaucoup moins stressant, je pense, du coup, forcément. C'est impressionnant de voir la quantité de travail que ces personnes réalisent quotidiennement et même semainalement. Donc, ils ont une routine. Ils ont vraiment une organisation sociale où chacun sait ce qu'il doit faire et donne son maximum, non pas seulement pour lui ou sa famille, mais pour toute la communauté et naturellement pour la forêt et l'humanité. Et donc, et chacun a des tâches qui va de, par exemple, de la construction, l'éducation, la cueillette, la plantation, la chasse, la pêche aussi. Donc, il y a une série d'activités qui dépend donc du rythme saisonnal, des pluies, des périodes de chasse, de cueillette. Donc, ils sont vraiment énormément connectés à ce rythme du temps, des lunaisons aussi, de produire des médecines, des plantes médicinales selon une période ou non de l'année. Et ils s'organisent aussi de manière assez différente. Ici, ça a l'air beaucoup chacun pour soi. Et finalement, eux, ils ont une organisation collective, c'est-à-dire que les journées commencent en réunion collective de la communauté, les semaines aussi, et donc pour réfléchir, donc quelle est la routine et les priorités de la communauté, donc pour se maintenir, pour maintenir une autonomie.
Merci pour votre écoute. Restez avec nous. On se retrouve pour la suite de l'épisode.